On continue ce matin notre série sur mettre Jésus au centre. Hein? Je vous ai encouragé, on a discerné à travers l'image du potluck de Noël, d'un repas, que finalement, quand on apporte ce qu'on a à Dieu, Dieu le transforme et nous le redonne d'une façon transformée et d'une façon qui nous transforme. On a vu la semaine dernière, à travers l'image de la chorale de Noël, justement l'importance de partager. L'importance de partager cette nouvelle-là, de ne pas la garder uniquement pour nous, mais d'être capable de partager cette joie de la saison, comme on le dirait. Et vraiment, on a été encouragés également, à travers les hymnes de Noël, à être constamment rempli du Saint-Esprit. L'idée de chanter, l'idée de proclamer au Seigneur les merveilles de sa venue. Et ce matin, je veux utiliser un autre classique de Noël pour justement nous encourager à faire de Jésus le centre de nos vies, le centre de cette saison. Et c'est le fameux échange de cadeaux. Vous avez déjà vécu ça dans vos familles, Noël, le moment où est-ce que les enfants sont tellement excités parce qu'eux autres, ils gagnent à l'échange de cadeaux. Eux autres, ils font une carte qu'ils ont dessinée pendant 3 minutes, ils la donnent et eux reçoivent quelque chose qui vaut pas mal plus que la carte. Hein? Tu sais, dans l'échange, là, il y a des échanges qui sont fairs puis d'autres qui ne le sont pas, mais tous les parents sont comme, il y a tellement d'amour dans ce dessin de 30 secondes, plein barbeau, c'est tellement merveilleux, je suis béni. OK, bon, des fois oui, des fois non, OK? Différents types de cartes, mais il y a cette idée-là que il y a différents échanges de cadeaux. Des fois, on le fait entre amis. Des fois, on le fait avec la famille. Des fois, justement, excusez-moi. Maudite dit carotte, plus jamais. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quelqu'un veut une carotte? Non. Mais c'est la même chose dans les échanges de cadeaux. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je crois que c'est bien vrai de mon point de vue. Mais peut-être que dans vos familles, vous avez des gens. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des langages d'amour? Oui. Et il y a un des langages d'amour que c'est le cadeau. C'est-à-dire que c'est comme la façon privilégiée que ces gens-là reçoivent l'amour. Fait que peut-être que ça peut être intéressant pour certains d'entendre ce que je vais dire présentement. Mais lorsqu'on offre un cadeau, lorsqu'il y a un échange de cadeaux, il y a certaines personnes que lorsque tu leur offres un cadeau, c'est pas juste un cadeau. C'est genre, oh, il a pensé à moi. Oh! Il a pris du temps pour aller sur Internet pour essayer de magasiner qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir. Et non seulement ça, il a pris le temps de l'emballer. Il a écrit un mot à côté. Il doit m'aimer tellement. Il a pris tout ce temps-là. Et puis, et là, tu me le donnes. Et là, je ne peux pas être plus aimé que ça. Vous avez des gens dans votre entourage comme ça? Amen. Ah, là, ça, c'est une madame qui voulait que son mari sache que c'était ça son langage d'amour. C'est sûr et certain. Je ne sais pas qui tu es, mais sois bénie, ma sœur. Et vous savez, pour une personne qui est comme ça, qu'un cadeau, c'est la meilleure nouvelle au monde, ben il y a une autre personne qui, elle, quand elle reçoit un cadeau, elle est triste. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle dit, « Ah non, je vais être en dette, il va falloir que je fasse un cadeau en retour. » Il y a des gens qui sont incapables, merci infiniment. J'en avais déjà une, mais deux, c'est parfait. Je pense que ça va être utile. Mais justement, il y a des gens qui, pour eux, c'est comme, ah, oh, ils se sentent mal de recevoir un cadeau parce qu'ils deviennent en dette. Là, vous dites, c'est compliqué l'être humain. Absolument, absolument, c'est compliqué. C'est compliqué. Et ça n'aborde même pas le sujet de quand tu veux faire un cadeau, mais que tu es trop paumé pour en faire un. C'est-à-dire que tu n'as pas d'argent. Là, on n'effleure même pas ça. Mais, heureusement, l'échange de cadeaux est très biblique. Je disais souvent aux ados, quand j'étais pasteur jeunesse, je leur disais, vous êtes aussi bien de remercier le ciel que Matthieu a décidé d'écrire l'histoire des rois mages, parce que sinon, ça n'existerait pas. Mais elle existe, et ce matin, on va l'explorer. C'est une de mes histoires de la nativité que je préfère, je vous le dis tout de suite. Mais de la même façon que je vous ai encouragé que lorsqu'il allait avoir un repas de Noël, vous puissiez justement réfléchir au fait que Dieu nous invite à table. De la même façon que je vous ai invité qu'à toutes les fois que vous entendrez un chant de Noël, il y aura cette invitation à partager la bonne nouvelle. De la même façon, j'aimerais vous mettre au défi que lorsque vous serez dans un échange de cadeaux, peu importe sa nature, bien, vous puissiez réfléchir au cadeau que Jésus nous a fait. Amen. Et puis, on va lire ensemble ce matin dans Matthieu 2. Matthieu 2, versets 1 à 14, et on va lire l'histoire de, justement de ces rois mages-là. Et puis, j'espère que vous allez être inspirés par justement, par leur histoire, par leur cœur, mais également par cet échange de cadeaux divins. Alors, voici verset 1. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors ça, c'est une citation de l'Ancien Testament. Et puis, ça va continuer. Et ça, c'est les chefs spécialistes qui vont faire cette citation-là. Verset 7, Matthieu 2, 7. « Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir. » afin que j'aille aussi l'adorer. » On peut mettre des guillemets là-dessus? D'accord. On lit le même récit, OK? « Après avoir entendu le roi, ils partirent, les mages. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph, dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. C'est toute une histoire. Des fois, on est tellement dans le folklore des fêtes qu'on oublie de s'émerveiller devant ce qui est en train de se passer. Tellement habitué de voir des étoiles à Noël qu'on n'imagine pas qu'est-ce que ça doit avoir l'air d'une étoile qui se déplace, qui n'est pas une étoile filante. Une étoile qui se déplace et qui se dépose à un endroit précis. Je ne sais pas si quand vous étiez enfant, vous aviez ce même réflexe-là. Vous étiez couché sur le gazon avec de la neige ou pas de neige, comme vous voulez. Et puis là, vous regardiez le ciel quand il n'y avait pas de pollution. Et puis là, vous voyez les étoiles de façon très claire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que l'étoile était juste au-dessus de vous? Et déjà là, on trouvait ça merveilleux. Il y en avait une tonne. Mais là, non seulement il y a une étoile qui est là, mais elle se déplace. Elle se déplace et elle se dépose, pas nécessairement sur la maison, mais au-dessus de cette maison-là. Et là, déjà là, c'est comme... C'est un fait assez inusité. Moi, je n'ai jamais vu d'étoiles se déplacer, sauf dans les pièces de théâtre un peu broche à foin de certaines églises avec quelqu'un qui a un bâton puis l'étoile se déplace. Là. J'exagère. Mais à part ça, je n'ai jamais vu une vraie étoile se déplacer, se déposer de la sorte. Et là, on apprend qu'il y a des mages qui se pointent parce qu'eux, ils ont vu cette étoile-là de très loin. Et on ne sait pas exactement d'où viennent ces mages, puis il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup d'histoires. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire des recherches cette semaine là-dessus. Mais on peut supposer qu'ils venaient soit d'Arabie, et on peut mettre la carte, ils venaient soit d'Arabie, là je le mets ici, là, Arabie, pourquoi? Et probablement du sud de l'Arabie, à cause des cadeaux qui ont été offerts, c'est-à-dire que l'or, et l'encens et la myrrhe étaient des ressources qui se trouvaient en quantité importante en Arabie. Donc, certains pensent que les mages venaient d'Arabie à cause des présents qui étaient apportés. D'autres croyaient qu'il venait plus de Babylonie. Pourquoi? Parce que le terme mage, magicien, était quelque chose qui était plus utilisé dans cette partie-là du Moyen-Orient, finalement, là, du Proche-Orient. Alors, il y en a qui pensent que c'était en Babylonie et d'autres vont penser que c'était plus en Perse qu'ils venaient à cause justement de leur forte capacité en astrologie et superstition, tout ça. Donc, est-ce que les rois mages, c'est vraiment les noms qui ont été donnés à travers l'histoire? On ne le sait pas. On ne sait pas d'où ils viennent, mais voici quelque chose d'intéressant, c'est que pour aller à Jérusalem, qui est dans ce coin-ci, excusez-moi, ben, la Babylonie, il fallait faire le trajet comme ça. Il fallait faire un genre, il fallait passer par le croissant fertile et puis descendre. C'est à peu près 1700 kilomètres. Quand même, à dos de dromadaire, ça coûte très cher présentement si on voulait faire 1700 kilomètres en dromadaire. Babylonie, 1700. Perse, je pense que c'est quelque chose comme 2700 si on regarde la capitale de Persépolis qui était à peu près ici. Et puis, si on pense au milieu de l'Arabie, ici, c'est à peu près... combien? 1500 kilomètres. Donc, il y a des gens qui viennent de loin, là. Hein? 1500 kilomètres, là, ça se fait pas en criant ciseaux. Il n'y a pas d'avion dans ce moment-là. Mais simplement dire que cette étoile-là les a soutenus sur une longue distance. Il y a quelque chose qui se passe qui est au-delà du naturel. Ça ne prend pas 2 jours faire 1500 kilomètres à d'autres dromadaires ou à d'autres chameaux. Vous comprenez? Mais, bon, fait que là, il y a toutes sortes de théories. Il y en a qui disent, ah, ben là, il y en a un, c'est un roi de Perse, il y en a un autre, c'est un roi en Inde, il y en a un autre, c'est un roi... Bon. Prenons comme hypothèse que minimum 1500 kilomètres, ça fait tout un bout de chemin. Ça va? Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que les cadeaux qui sont offerts, il y a quelque chose de très intéressant dans ces cadeaux-là. Ces mages-là sont très riches. Très, très riche, à cause que ces aromates-là, la myrrhe, l'encens et même l'or, c'est quelque chose qui vaut extrêmement cher. Et on voit le contraste dans cette histoire-là de Marie qui est dans une maison modeste et qui là, il y a comme un genre de contingent. Parce que là, vous savez que s'il était juste 3 mages, là, probablement qu'il y avait d'autres gens autour d'eux. Il y avait probablement une garde, il y avait probablement une micro-armée. Parce que tu te promènes pas à 3 chameaux avec ces richesses-là sur 1500 kilomètres. Ça va? Fait que c'est pas juste 3 personnes qui se pointent, là. C'est probablement un contingent qui arrive. Et peut-être que votre maison est modeste comme la mienne, mais imaginez qu'il y a 400 personnes qui se pointent dans votre entrée avec des cadeaux puis avec le ben pas le carrosse de Cendrillon, là, mais quand même quelque chose, une voiture, disons, plus onéreuse que la vôtre. On va dire ça comme ça. OK? Voici ce qui est en train de se passer. Le caractère très humble de Marie versus quelque chose de gros. Et il faut comprendre que dans l'histoire, il y a eu souvent des gens, puis c'est très inspirant, qui vont dire « Ah, l'or représente la royauté de Jésus. L'encens, c'était utilisé dans tous les cultes à gauche, à droite, ça représente l'adoration pour Jésus. Et la myrrhe était un des aromates qui était utilisé pour l'embaumement des corps. Alors, et les mages sont en train d'annoncer non seulement la mort, mais la résurrection de Jésus. » Bon, est-ce que c'est inspirant? La réponse, c'est oui. Est-ce que c'est ce que Matthieu est en train de dire ou est-ce que c'est ça le symbole que Matthieu et Jésus sont en train de nous montrer? Je pense que non. Et je vous explique pourquoi. Parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que les gens qui mettaient de la myrrhe dans leurs aromates de funérailles, c'était justement, si c'est rare puis très onéreux, ben c'est pas tout le monde qui met ça. C'était pas quelque chose de commun, genre tout le monde met de la myrrhe. Justement, c'était quelque chose de très rare. Et puis, ce qui se passe, c'est que Matthieu, lui, son objectif, quand il écrit l'Évangile, il l'adresse aux Juifs. Okay? Pour lui, sa lettre, tu sais, si vous écrivez une lettre à quelqu'un, elle va être teintée de la personne à qui vous l'écrivez. Matthieu, lui, l'écrit aux Juifs et pendant tout son récit, c'est celui qui cite le plus souvent l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il veut que les Juifs comprennent que Jésus, c'est le roi et Messie. Jésus, c'est celui que les prophéties de l'Ancien Testament annonçaient et c'est celui qui est né, c'est celui qui a vécu, c'est celui en qui on peut placer notre confiance. C'est le Juif Messie. Le Messie, pas le joueur de soccer, le vrai sauveur. OK? Et puis, ce qui se passe, c'est que les cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe répondent à des prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Je vais vous les partager, OK? Si on regarde ça dans Ésaïe 60, versets 3 à 6, regardez bien ceci. « Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées dans les bras. En le voyant, tu rayonneras de joie. Ton cœur bondira et se dilatera. » C'est beau ça, hein? Ton cœur se dilatera. Car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les ressources des nations viendront chez toi. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, de tout dromadaire venu de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, porteurs d'or et d'encens, et annonceront les louanges de l'Éternel. Wow! Fait que là, on voit l'histoire des mages qui est comme la réalisation de cette prophétie messianique-là. Et non seulement ça, dans Psaume 72, on va le voir également, ça va dire « Les rois de Tarsis et des îles amèneront des offrandes. Les rois de Séba et de Saba apporteront leurs tribus. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Que le roi vive, on lui donnera de l'or de Séba. On priera pour lui sans cesse. On le bénira tout le jour. » Wow! Alors, ces présents qui sont là sont l'accomplissement de ce qui avait été annoncé sur Jésus. Alors, les mages, ils ne savent pas, eux autres. Hein? Eux autres ne sont pas là. « Hey, et si on accomplissait une prophétie aujourd'hui? » Non, ils ne savent pas, mais Dieu les conduit là, les conduit même à se prosterner devant un enfant. Intéressant. Et justement, je veux vous raconter une autre histoire d'échange de cadeaux. Là, ça fait deux fois qu'on parle de Séba, de Saba, de tout ça. J'aimerais qu'on puisse regarder une autre histoire d'échange de cadeaux qui parle de l'or de Séba. Et on va faire un lien entre les deux. Et vous allez voir que même l'histoire de la reine de Séba pointe vers Jésus. Vous êtes prêts pour ça? OK. L'histoire de la reine de Séba, on trouve ça dans 2 Chroniques 9. Vous allez voir, je m'en vais quelque part. Inquiétez-vous pas, OK? Je ne suis pas perdu dans mes notes. Ça va bien. Ma voix t'offre. Ça va. 2 Chroniques 9. Si vous l'avez dans votre application, je vous encourage à le regarder. C'est encore plus visuel qu'on l'a devant soi. Alors, ça veut dire, la reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon. Et elle vient à Jérusalem pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle avait une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en grande quantité et de pierres précieuses. Ça vous rappelle quelqu'un, ça? Elle se rendit auprès de Salomon et exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ses questions. Il n'y eut aucun mystère pour Salomon. Il lui expliqua tout. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues de ceux qu'il servait, ses responsables des boissons, leurs tenues, les holocaustes qu'il offrait pour monter à la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. Et elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays, au sujet de ta situation et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux. Et l'on ne m'avait même pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que j'avais appris par la rumeur. » Alors, on passe quelques versets. Verset 9, ça va dire, « Elle donna au roi plus de 3,5 tonnes d'or. » Une grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates pareils à ceux de la reine de Séba donnés au roi Salomon. Et verset 12, le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et notez bien ceci, plus qu'elle ne lui avait apporté. Elle repartit et rentra dans son pays avec ses serviteurs. Vous savez que Salomon, il a donné plus que les 3,5 tonnes d'or, aromates, tati, tata, à gauche, à droite. Et c'est quelque chose quand même intéressant. Là, vous vous demandez, c'est quoi le lien? On continue. Okay? Certains, et si on regarde la map, la carte du monde, certains vont dire que la reine de Séba était en Éthiopie, probablement sur la côte ici, et d'autres qui venaient vraiment de la région de Saba. Alors, le Coran en parle, les écrits bibliques en parlent, et il y a toutes sortes de légendes à gauche et à droite. On peut s'y perdre. J'ai eu beaucoup de plaisir à m'y perdre, mais je vous donne un peu le topo. Mais encore une fois, ici, ça ici, c'est le Yémen actuel. Okay? La théorie, c'est que Saba, ça serait vraiment cette région-là qui était hyper, hyper fertile à cette époque-là. Ici, c'est l'Arabie saoudite actuelle. Et puis au sud, on a le Yémen qui est là. Et puis, encore pour se rendre là, on parle de 2700 km de route pour faire Saba jusqu'à Jérusalem. Il faut être curieux, hein? Il faut être curieux de la richesse, il faut être curieux de la sagesse. Et là, ici, ce qui est intéressant, c'est que la reine n'est pas attirée par une étoile, mais elle est attirée par la sagesse du roi, elle est attirée par la splendeur de Salomon et sa sagesse. Et on se rend compte que non seulement la sagesse de Salomon était grande, mais elle était bien plus grande que tout ce qu'elle avait pu imaginer sur ses 2700 km de voyage. Quand même. Elle est arrivée, puis elle s'était dit, si il est grandiose comme ça, on va lui montrer que moi aussi, je ne suis pas pire. Comprenez? Fait qu'elle, elle n'amène pas juste le fond de ses trésors, là. Elle n'amène pour vrai les 3,5 tonnes et tout ça. Elle amène ça. Et finalement, elle reçoit encore plus que ce qu'elle a donné. Intéressant, n'est-ce pas? Comme échange de cadeaux, c'est pas pire, ça, hein? Là, tous les enfants sont comme, « Ah, oh, yes, j'espère que mes parents vont me donner quelque chose de plus grande valeur que ce que je vais leur donner. » Il n'y a pas d'enfants qui n'ont jamais réfléchi à ça, je le sais. Mais quand même, ici, on voit que l'échange de cadeaux est profitable pour la reine de Saba, de Séba. Et je veux faire un lien avec l'histoire des mages. Le lien est le suivant. Les mages ont apporté des trésors d'une grande valeur. Et c'est probablement avec ces trésors de grande valeur-là que Joseph a financé le déménagement de sa famille en pleine nuit. C'est extraordinaire, hein? C'est comme si les mages arrivent au moment X, et puis la nuit même, un ange avertit Joseph, « Tu dois partir avec ta famille en Égypte, puis tu pars cette nuit. » Et ce qu'on se rend compte, c'est que les ressources étaient toutes disponibles, non pas 10 ans à l'avance, 2 heures d'avance, on ne sait pas trop, 5 heures d'avance, 10 heures d'avance, mais Dieu avait déjà pourvu à tout ça. Et contrairement à la reine de Séba, qui est repartie avec les richesses de Salomon, bien, on n'entend pas que Joseph a essayé d'y donner du pain ou des biens précieux. En fait, il venait d'une famille modeste, probablement qu'il n'y avait pas grand-chose à leur donner. Mais j'aimerais faire le lien suivant. Et si les mages étaient repartis avec quelque chose d'une plus grande valeur que ce qu'ils ont apporté? Et si? Et j'aimerais nous amener dans un passage d'Ésaïe 9, qui est encore une prophétie messianique qui va dans ce sens-ci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et voici quels ont été les cadeaux que Christ a offerts à ces mages-là alors qu'ils sont partis. La paix. Une paix dans le cœur, une paix dans la vie. Une paix. Est-ce que vous savez que la paix est probablement un des biens les plus précieux dans la vie du croyant? Vous avez expérimenté une paix quand la tempête rage? Ça vient de Christ. C'est pas naturel. Non seulement ça veut dire qu'il est un Père éternel. Il est un Papa pour toute l'éternité. Et là, je ne sais pas quelle est la qualité de papa que vous avez eue dans votre vie, OK? Puis on ne fera pas un sondage. Mais un des cadeaux que Christ offre à chacun, c'est d'avoir un papa qui l'aime pour cette vie ici, mais également pour l'éternité. Nos papas terrestres finissent par mourir, mais notre papa céleste, lui, vit à jamais. Non seulement ça va nous dire que le cadeau que Christ offre, c'est celui d'un conseiller. On vit dans une époque où est-ce qu'on est prêt à payer cher pour avoir les conseils d'un conseiller expérimenté, professionnel, ici et ça. Mais vous savez quoi? On a comme conseiller le Dieu Tout-Puissant qui nous aide dans nos décisions, qui nous aide dans nos choix. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais il y a certains choix qui ne sont pas évidents dans la vie. mais on a un conseiller qui a tout son temps pour t'écouter puis qui ne charge pas une scène. Pas pire, ça, hein? Pas pire, pantoute. On a un modèle aussi. Hein, quand on parle d'admirable, quelqu'un qui est admirable, c'est quelqu'un qu'on admire puis qu'à quelque part, on est capable de prendre comme modèle. Quel modèle merveilleux on a en Jésus-Christ. Mais également, on a l'idée du Tout-Puissant, du Dieu puissant. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à travers certaines circonstances de ma vie, si ce n'était de la puissance de Dieu, je ne serais pas ici. Toute la puissance de Dieu est disponible et il la rend accessible à ses enfants. Alors, imaginez l'échange de cadeaux. L'échange de cadeaux qui est en train de se faire. Et voilà, écoutez-moi bien, je veux faire un lien ce matin et j'espère que ça va vous bénir, OK? Vous savez, je pense qu'on ressemble beaucoup plus aux mages qu'on peut l'imaginer. Vous dites, ah oui, comment ça? Non, pas de cette façon-là. Pas parce que vous êtes riche comme Crésus, OK? Non. Mais je pense qu'on est un peu tout comme ces mages-là. Et je vous explique pourquoi. Parce que nous aussi, on est très éloignés de la culture juive de l'époque. On est à des milliers de kilomètres, comme ces juifs-là. Comme ces mages-là, plutôt. Et chacun de nous, si ce n'est d'une direction qu'on a reçue de Dieu, jamais on n'aurait été capable de se rendre au bon endroit. Personne ne peut trouver le chemin si Dieu ne l'éclaire. Mais quand finalement, comme chacun de nous qui est un peu ces mages-là, on décide de suivre cette direction qui vient du ciel, cette idée de Jésus qui nous attire, bien on finit par arriver jusqu'à cet enfant nouveau-né à Noël. Et on comprend comme les mages, en le voyant, qu'il mérite tous nos trésors, qu'il mérite ce qu'on a de plus précieux. Et je crois que les gestes des mages sont encore plus significatifs que la valeur des présents, puis je vous explique pourquoi. Quand ils ont vu l'enfant Jésus, c'est quoi la première chose qu'ils ont faite? Ils ont été remplis de joie. Quand ils sont arrivés, est-ce qu'ils ont donné leur cadeau tout de suite? Non, ils se sont prosternés. Ils l'ont adoré. Et qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ensuite, ils ont ouvert leur trésor et ils ont donné leur cadeau. Et c'est exactement ça à quoi Dieu nous appelle. Alors qu'il nous attire à lui, notre première réaction, c'est de voir ça et de dire, « Waouh, quelle joie formidable que Dieu m'ait conduit jusqu'ici. Je veux simplement m'agenouiller, je veux l'adorer. » Et quand on est en cheminement avec Jésus, qu'on essaie de trouver l'endroit où est-ce qu'il se trouve. Et chacun d'entre nous, on a eu un cheminement au point de le voir, au point de savoir qu'il est là, bien présent. Et justement, nous aussi, on veut s'agenouiller. On veut l'adorer. Et on veut lui donner exactement nos présents les plus précieux. J'ai nommé nos propres vies. Et c'est exactement l'histoire des mages qui sont venus de loin, qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Mais que l'étoile les a guidés au bon endroit, et chacun d'entre nous, si ce n'est pas Dieu qui nous attire, on ne va pas dans la bonne direction. Nos cadeaux sont bien minces. Je devine que Joseph devait se sentir un peu mal de ce qu'il pouvait ne pas donner à ces gens-là qui arrivaient, alors qu'eux arrivaient avec des trésors de grand prix, des affaires rares comme ça n'a pas de sens. Il devait se sentir mal, mais vous savez, qu'est-ce que j'ai appris avec ma vie chrétienne? Et que plusieurs l'ont appris, c'est que la chose la plus précieuse qu'on peut offrir à Christ, c'est quoi? C'est notre vie. C'est ce qui se délecte le plus. C'est la chose qu'il apprécie le plus. Et c'est l'invitation que chacun de nous, on a, celle de donner nos vies, celle de donner nos trésors. Et j'ai une excellente nouvelle pour vous. Vous savez quoi? C'est que de la même façon que la reine de Séba est partie avec des trésors encore plus extraordinaires que ceux qu'elle avait apportés, de la même façon que les rois mages ont apporté des trésors, mais sont partis avec quelque chose d'encore plus extraordinaire, sont partis avec cette rencontre-là avec le Messie, j'aimerais vous dire la chose suivante. C'est que lorsque nous donnons nos vies à Jésus, le trésor que l'on reçoit en retour, il est tellement d'une plus grande valeur que ce qu'on a pu même offrir. Parce qu'on a non seulement la paix, on a une paix permanente avec Dieu. On a un conseiller qui nous dirige alors que nous-mêmes, quand on prend nos décisions par nous-mêmes, on se plante. Mais on a un conseiller qui est avec nous. On a un modèle sur lequel on peut calquer qu'on peut décider d'être comme Jésus. Et vous savez quoi? C'est la personne la plus extraordinaire qui a existé sur ce côté-ci de l'éternité. Il était amour, il était grâce, il était tellement rempli de compassion. Il était puissant, il était sans péché, il était parfait. Le cadeau qu'on reçoit, c'est cet accès-là à cette puissance de Jésus qui transforme une vie complètement. C'est un moyen échange de cadeaux payants, ça. On est gagnant dans cet échange de cadeaux-là. Mais vous savez quoi? Ça coûte de le donner, notre trésor. Vous savez, même les rois mages, quand ils donnent ça, ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent s'acheter avec ça. Ils savent c'est quoi le coût d'opportunité, c'est quoi le coût qu'ils pourraient avoir d'autres choses. Mais ils le donnent et finalement font confiance que ce qu'ils vont recevoir est tellement d'une plus grande valeur que ce qu'ils ont reçu. Est-ce que je peux inviter les musiciens à s'approcher ce matin? Mais quel cadeau merveilleux on a en Jésus-Christ! Quel cadeau! Et puis là, peut-être vous vous dites, « Ouais, mais moi, j'ai pas vu d'étoiles! J'ai pas vu rien dans le ciel! » Quelles ont été les circonstances par lesquelles Jésus t'a attiré à lui? Et là, vous allez vous rendre compte que, des fois, c'est des rencontres, c'est des personnes. Des fois, c'est des circonstances qui vous ont conduit à un endroit où vous n'auriez jamais été sans ces circonstances-là. Mais tout ça, c'est des étoiles dans le ciel qui nous conduisent au bon port. Et ce bon port-là, Hérode n'a pas voulu y aller. Les chefs des prêtres, les chefs, les spécialistes de la loi n'ont pas voulu y aller. Et vous savez, je pense pourquoi? Là, c'est mon interprétation personnelle, OK? Je pense que Hérode, les chefs et les spécialistes n'y sont pas allés parce qu'ils n'étaient pas prêts à faire leur bout de l'échange de cadeaux. Hérode n'était pas prêt à laisser son trône pour reconnaître qu'il y avait un autre roi. Les chefs spécialistes n'étaient pas prêts à faire de la place à quelqu'un d'autre qui pourrait avoir une opinion différente d'eux. Et ils ont passé à côté de l'échange de cadeaux le plus extraordinaire qui puisse exister. Dieu nous redonne encore plus que ce que nous pouvons lui offrir, et même si c'est précieux à nos yeux. Moi, je ne connais pas grand monde que leur vie n'est pas précieuse à leurs yeux. Ça va? Mais même si c'est précieux à nos yeux, Christ est encore bien plus supérieur à tout ce qu'on pourrait lui offrir. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a un passage dans Jacques qui va dire la chose suivante, dans Jacques 1. « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent, ces bienfaits et ces dons-là. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. » Écoutez-moi bien. Est-ce que vous avez déjà reçu un cadeau qui a mal vieilli? Peut-être que lorsque vous êtes marié, vous avez reçu, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous pourriez avoir reçu? Ah oui, vous avez reçu une nappe en dentelle tricotée par arrière-grand-maman. J'ai rien contre ça. Mais il se pourrait que 20 ans après, vous regardiez votre nappe et vous fassiez comme... Si un conseiller en design de maison venait chez moi, je pense que ça ferait partie de son rapport. Peut-être que vous avez déjà reçu à votre mariage un réfrigérateur jaune. Et savez-vous quoi? À cette époque-là, il t'a fait les friges d'air jaune. Il était laite, mais il t'a fait. Et là, après 35 ans à regarder le jaune de votre friche d'air, vous faites comme, c'était vraiment un beau cadeau, mais 3 petits points. Dans ce passage-là, on voit quelque chose d'intéressant. Celui que tout bienfait qui vient du Père des Lumières, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce qui promet aujourd'hui ne se démode pas demain. Ce qui vous offre aujourd'hui, ça ne deviendra pas passé date. Des fois, on reçoit un cadeau d'une personne qui était chère à nos vies, puis on le reçoit, puis on est dans la joie, puis on se rappelle de ça 15 ans plus tard, puis on se rend compte, hey, ben, on n'a plus de relation. Tu sais, c'est comme ça a quitté. Ou, pour toutes sortes de choses, nos chemins se sont éloignés. Mais ici, on n'a pas d'un Dieu qui dit quelque chose, puis après ça, qui s'éloigne. On a un Dieu en qui il n'y a ni changement, ni variation. Cet échange de cadeaux-là, c'est pas juste pour une seconde. C'est jusqu'à notre vie éternelle. On va relire le verset Ésaïe 9. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. J'aimerais nous encourager ce matin à être de ceux. Peut-être que vous êtes chrétien depuis longtemps. Peut-être que vous êtes en cheminement. Peut-être que l'étoile vient d'apparaître et vous essayez de voir comment qu'on peut s'y approcher. Chacun, on est dans un endroit différent. Mais je crois personnellement que cette même attitude des mages, celui de se prosterner, de l'adorer, d'être rempli de joie devant cette nouvelle merveilleuse-là, ça se démode pas. Ça reste pour toujours. Parce qu'il est tellement merveilleux. Et moi, je veux nous inviter pendant la période des fêtes. Vous aurez peut-être un échange de cadeaux. Peut-être vous allez recevoir une tasse qui ne fait pas votre affaire. Achetez-moi pas de tasse, j'en ai assez. Peut-être vous allez recevoir quelque chose qui ne fait pas votre affaire. Mais j'aimerais nous encourager à toujours être capable de voir le cadeau merveilleux que Christ nous a offert. Il y en a ici qui ont besoin de remémorer à leur esprit le cadeau merveilleux que Christ leur a offert et de vivre à l'intérieur de ce cadeau-là. Il y en a d'autres qui ont besoin de dire, ben moi, peut-être que pour une première fois, j'ai besoin de prendre ma vie puis de l'offrir comme un cadeau devant cet enfant-là nouveau-né. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de réanimer cette idée d'adorer le Seigneur, de s'abandonner à lui. Moi, je veux t'encourager ce matin à lui offrir ta vie. C'est le plus beau cadeau que tu peux lui offrir parce que c'est ce qui est le plus précieux à ses yeux, c'est ton cœur. Et en échange, tu bénéficies du cœur de Jésus. Du cœur de Jésus. Du cœur de Jésus qui est comme un cœur de Père. Chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ce matin? Si vous voulez courber la tête, vous qui voyez. Et j'aimerais que vous puissiez peut-être juste... Il y en a qui sont très visuels. Peut-être que vous pouvez visualiser vous qui offrez un cadeau à un bébé, si vous voulez, ou à Jésus lui-même. Et juste que dans votre esprit, dans votre cœur, vous puissiez avoir cette idée-là, Seigneur, voici ma vie. Seigneur, voici mon trésor. Seigneur, voici mon cœur. Je te l'offre. Je te l'offre. Et je ne le reprends pas par la suite, je te l'offre. Peut-être que quelqu'un fait ça pour la première fois ce matin. Et je prie que le miracle de la nouvelle naissance puisse avoir plein effet dans ta vie. Tu puisses voir l'effet transformateur qu'une vie remise entre les mains de Jésus produit. Et peut-être que c'est pas la première fois que tu fais ça. Mais à travers les circonstances de la vie, tu as beaucoup plus l'habitude de reprendre ta vie que de la lui offrir. Et ce matin, c'est un moment pour offrir sa vie, offrir son trésor, offrir ce qui est de plus précieux pour celui qui est le plus précieux, Jésus-Christ. Alors Seigneur, je te prie, Seigneur, que ce matin, tu puisses recevoir nos vies, que tu puisses recevoir nos cœurs, et que dans cet échange de cadeaux extraordinaire que tu as fait par ta venue, Seigneur, chacun d'entre nous puissions faire comme ces mages, bondir de joie, s'approcher, s'agenouiller et t'adorer. Seigneur, puisses-tu produire ce miracle, Seigneur, sur mes frères et mes sœurs, Seigneur, ce matin. Que ta grâce, Seigneur, puisse abonder dans la vie de chacun. Et Seigneur, on veut juste se tenir dans une posture de reconnaissance envers le plus beau cadeau qui a été fait à l'humanité, Jésus-Christ incarné. Sois glorifié, sois élevé.